Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode Dans le Mille spécial édition Coupe Memorial du Bas-Saint-Laurent à Rimouski.
Ouais, c'est
avec
ça.
Renaud, comment tu vas?
Comme vous voyez, on est sur place, on est à l'aréna à Rimouski. Ouais. Il y a eu des petits problèmes avec la réfrigération, toute la glace est fondue, Coupe Memorial annulée, c'est ça qu'on avait prédit, hein. Ouais. On est tellement bon.
Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, on a quelques commanditaires à souligner.
Tout d'abord, comme d'habitude, perfoelite.com. Perfoelite.com, c'est quoi? C'est une équipe d'entraîneurs qui va aider soit des entraînements individuels ou en équipe, sur glace ou hors glace, c'est-à-dire conditionnement physique, conditionnement mental, entraînement vraiment de skills, power skating, whatever. Tu veux t'entraîner à quelque chose, eux, ils l'ont. Fait que si vous êtes un coach, un parent, perfoelite.com, c'est une super ressource pour vous. Et puis, si vous êtes plus du côté amateur, fan de hockey, analyste, professionnel, EliteProspect.com, ça va être la ressource pour vous. Avec le code DLM30, vous avez 30% de rabais sur un abonnement annuel. EliteProspect.com, la version gratuite, c'est le site gratuit le plus complet de statistiques. Et puis en plus, avec l'abonnement premium, vous avez non seulement plus de statistiques, mais aussi accès à EP Ringside, leur guide du repêchage, leur guide de pool. Alors écoute, pour toute fan de hockey, c'est une super bonne ressource, surtout avec 30% de rabais. Merci à nos deux partenaires, Elite Prospect et Perfoelite.com. Mais bon, je pense qu'on a quand même un gros épisode. Écoutez, vous expliquer comment est-ce qu'on va fonctionner pour aujourd'hui. Tout d'abord, pour ne pas vous garder en attente trop longtemps, on va faire nos prédictions de qui est-ce qu'on pense qui va gagner le tournoi, expliquer un peu pourquoi, et après ça, on va vraiment rentrer dans les analyses plus précises, équipe par équipe. On a fait un power ranking en date du 27 mai 2025, donc c'est-à-dire le jour 5. Ce soir, à l'heure où vous allez regarder la vidéo, ça va être un petit peu avant le match entre London et Medicine Hat. Et c'est sûr qu'une fois que ce match-là va être joué, le power ranking pourrait avoir changé, ainsi que demain, le match clé entre Moncton et Rimouski. Donc, on fait nos prédictions pour ces matchs-là, pour la finale. Et puis après ça, on regarde notre power ranking en date d'aujourd'hui.
Pour commencer aussi, tu as parlé du fait qu'on a regardé trois matchs sur cinq, là, en fait, parce que le premier, on l'a manqué, justement, mais on l'a quand même regardé à la télé. Donc, on va pouvoir mettre ça dans notre power ranking. Est-ce qu'on commence par qui on pense va gagner?
Ben, on peut.
Prédiction, parce que c'est quand même, c'est des one game, tu sais, c'est pas des séries. Donc, comment ça fonctionne, c'est que là, on est dans la phase préliminaire. Ensuite, il va y avoir soit un match de bris d'égalité. Donc, pour qu'un match de bris d'égalité arrive, il faudrait que Rimouski gagne contre Moncton, si je comprends bien. Ou en fait, je pense que ça se peut même plus.
Ce soir, il y a le match qui va décider qui va en finale, soit London, soit Medicine Hat. Et puis demain soir, en fait, l'équipe perdante de ce soir va jouer en demi-finale contre l'équipe qui gagne demain soir. Donc, l'équipe qui perd ce soir, soit elle joue contre Moncton, soit elle joue contre Rimouski.
Rimouski. C'est vrai, fait qu'il n'y aura pas de match de bris d'égalité. Non. Normalement, il y aurait eu peut-être cette situation-là. Et donc, ça fait que c'est quand même des matchs très importants qui s'en viennent. Mais aussi que, justement, c'était arrivé, je pense, en 2009 que l'équipe avait perdu les deux premiers matchs, avait gagné son troisième match, s'était ramassé en demi-finale, avait gagné, puis se rend en finale, puis il gagne. Donc, Rimouski et Moncton, en ce moment, n'ont aucune victoire, mais ils ont encore une chance de gagner. Donc, c'est ça qui rend le tournoi intéressant. Et en même temps, London puis Medicine Hat de l'autre côté, ben il faut pas qu'il ait la coule douce. Et je pense que c'est peut-être un des avantages qu'on va donner à London, qui est notre équipe qu'on voit se rendre le plus loin, parce qu'ils ont 13 joueurs qui étaient dans l'édition de la Coupe Memorial l'année passée. Donc, voici l'équipe qui a peut-être le plus d'expérience, avec un coach aussi qui, Dale Hunter, a le plus de matchs gagnés dans la Memorial Cup. Donc, on s'entend quand même que tout pointe vers que cette équipe-là se ronde. Mais bon.
Si on rentre dans la section prédiction, écoute rapidement, ça, c'est la partie pour qui est plus écoute pour le plaisir, selon ce qu'on a observé, qu'est-ce qu'on pense qui va arriver. Et puis après ça, power ranking, ça va être plus analyse, statistiquement parlant, les joueurs, peu importe, plus en détail. Moi, écoute, pour ma prédiction personnellement, je pense que ce soir, c'est London qui gagne pour se rendre en finale. Demain, Moncton qui gagne pour se rendre en demi-finale. Medicine Hat contre London en finale. Et puis, je pense que Medicine Hat va prendre sa revanche contre London pour gagner le tournoi au complet. Donc, voilà pour ma prédiction personnelle pour le restant du tournoi.
Après, regardez, c'est un match, comme on dit. Fait que,
les prédictions, c'est pour le fun.
C'est quatre équipes vraiment de haut talent. je pense que où est-ce que c'est le plus safe, ça serait de dire que Moncton gagne contre Rimouski parce que Rimouski, c'est la seule équipe qui n'a pas gagné son championnat. Rimouski, c'est peut-être aussi l'équipe qui a le moins de power, de talent élite, dans le sens que Moncton ont Desnoyer, qui est un joueur vraiment phénoménal. Ensuite, Medicinal, bon, ils ont McKenna, ils ont Bacha, on va en parler dans l'explication, mais c'est peut-être la seule équipe qui a pas le talent individuel pour se rendre plus loin. Donc, je pense aussi que Moncton va être capable de se rendre en demi. Puis, pour la suite, Moncton, à date, les deux défaites qu'ils ont eues, c'est vraiment des défaites de un but. Bon, hier, ils ont perdu 3-1 contre London, mais c'est un but désert. C'est des matchs qui sont très serrés. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas que Moncton se rende en finale et même surprenne. Donc, rentrons tout de suite dans le Power Ranking parce que...
Tu as ta prédiction bold. Toi, tu dis que c'est Moncton.
Ben moi, je pense que Moncton va se rendre en finale. Ensuite, je pense que London va le remporter. Je vois pas comment cette équipe-là, avec l'expérience qu'ils ont, avec le star power, peu importe, on va en parler dans les prochaines minutes. Donc, lançons-nous sur le Power Ranking et on va commencer avec l'équipe haute, l'Océanique de Rimouski. Donc, ouais. J'en ai parlé un peu maintenant, mais ouais. C'est ça.
Un peu avant d'entrer dans les joueurs clés, un peu, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour l'Océanique? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dans les matchs, que ce soit dans le 5-4, leur premier match, ou bien dans le match qu'on a vu contre London l'autre jour, c'est l'équipe qui compte le plus sur vraiment la force physique, le grit, le travail, alors que les trois autres équipes, eux qui ont gagné leur championnat, sont vraiment plus dans des jeux organisés. Ils ont vraiment plus, pas pour dire que l'Océanique n'a pas de système, c'est juste qu'à cause justement du nombre un peu plus bas de joueurs repêchés, il faut vraiment qu'ils rushent le filet. On voit aussi, tu sais, beaucoup de vétérans qui sont plus physiques, plus responsables. C'est l'équipe vraiment qui va le plus dépendre de contre-attaque, être les premiers sur la rondelle, jouer fort. Fait que je pense que ça va être la grosse clé, tu sais, justement, demain contre Moncton. Peut-être justement sauter sur le fait que Moncton vienne de perdre un match. Peut-être qu'ils vont être un petit peu déstabilisés. Aller vraiment rough, utiliser ces deux jours de congé-là qu'ils vont avoir eu pour justement arriver en pleine forme physiquement, parce que moi, je pense que ça va être ça vraiment la clé de l'Océanique. Ils ne peuvent pas s'attendre à faire des jeux plus compliqués, être plus dans la dentelle que Moncton. Ça va vraiment être qui est sur la rondelle en premier, pousser devant le filet, pousser les joueurs qui vont être devant leur filet. Là, c'est sûr que ça aurait été vraiment le fun pour eux que Spencer Gill soit là. Ça aurait fait un super bon match-up avec son frère Dylan Durbar, Spencer de l'autre. Il n'est pas là, c'est sûr que ça fait comme une énorme béquille en défense. Là. C'est ce joueur-là, choix de deuxième ronde à LNH, c'est un très, très grand défenseur, super physique. C'est sûr que ça va faire mal, mais justement, il faut compenser pour ça. Il faut être les premiers sur la rondelle, il faut pousser, il faut que Mathieu Katafor continue à faire ce qu'il faisait super bien dans l'autre match, ouais. Se dégager devant le filet, pousser, faire mal à l'autre équipe.
Ben, tu sais, il y a aussi le fait que Rimouski, c'est une équipe qui est peut-être plus basée sur... des excellents joueurs de junior. Mm-hmm. La profondeur en termes d'offensive est peut-être pas autant là que les autres équipes, mais mettons, je veux parler de Coursol, par exemple, qui est un excellent travaillant, un joueur vraiment qui fait les bonnes choses. Et c'est ça un peu qui a fait que Rimouski sont restés dans le match contre London. On est assis à côté de gens de Rimouski et autres, puis les gens de Rimouski pouvaient nous dire « Ah, ça va finir 5-1 pour London, ce match-là. » Donc, on s'entend, c'est du monde, peut-être, d'habitude, sont biaisés pour Rimouski. Et là, il n'y avait vraiment aucun espoir contre London. Et Rimouski, c'est quand même, ça en est bien sorti. Langevin a vraiment fait un excellent match devant le filet. Mais oui, c'est sûr que la perte de Gill fait extrêmement mal. On a aussi l'avantage, comme on est média avec la GMQ, on peut ensuite parler au coach et à certains joueurs. Et on avait parlé avec Joël Perrault, parce que là, on parle surtout du prochain match contre Moncton. Et il nous avait dit, bon, cette saison, on les a rencontrés 8 fois. On en a gagné 3 de ces 8 matchs-là. Donc, on s'entend que l'avantage est peut-être plus du niveau de Moncton. Mais c'est quand même une équipe qu'ils connaissent bien. C'est plusieurs 20 ans là-dedans. Donc, c'est des joueurs qui ont de l'expérience, qui savent c'est quoi. Des matchs importants comme ça, peut-être pas autant importants que demain, par exemple, mais il y a quelque chose que je me dis, même si moi, je vois Moncton se rendre en finale, il y a quelque chose que je me dis, Rimouski, avec la foule de leur bord, avec une performance de Langevin comme il l'a fait contre London, tout est possible. Mateyko a vraiment eu un match décevant. Son premier, son deuxième, ça a vraiment été mieux. Il a marqué un but, si je me trompe pas. Katafor, son jeu physique est impressionnant. Moi, il y a un joueur que j'aime énormément, c'est Alexandre Blais. Une vision incroyable. Je pense que on va en parler tantôt de Bacha, mais il y a quelque chose dans Blais que je vois avec Bacha. Bacha, on s'entend, c'est un choix de deuxième ronde de Calgary. Mais Blais, peut-être moins rapide que Bacha, mais vraiment exécution, trouve les jeux dangereux. Il y a vraiment quelque chose. Moi, je pense que le gros trou pour Rimouski, c'est sa défensive. On parle de Spencer Gill, mais quand on regarde la défensive des quatre équipes, celle de Rimouski est vraiment très loin derrière, selon moi. Il y a Pierre-Olivier Roy, je veux pas te tromper son prénom, là, qui est peut-être celui le plus dangereux offensivement. Mais sinon, dans les cinq autres, il y en a pas un qui est un Molendijk, un Dickinson. Il y en a pas un de cette trempe-là. Même un Dylan Gill qui a joué professionnel. Donc, c'est ça. Je pense que Rimouski... ça va être difficile pour eux de gagner demain contre Moncton, une équipe qui va être affamée.
Non, écoute, ça va être de prendre leur chance. On l'a vu contre London, ça ne va pas être l'équipe qui va avoir le plus de chances de marquer. Il faut quand ils les aient, ils capitalisent dessus.
Mais ils ont des grosses chances. Quand ils l'ont, c'est des grosses chances. Mais il n'y en a pas beaucoup.
C'est juste qu'il faut qu'ils rentrent dedans. À la fin de la journée, il faut que tu ailles le petit tap-in. Puis écoute, comme le coach disait, Joël Perrault disait à la conférence de presse, des fois c'est de la chance, des fois c'est avoir le rebond de ce bord-là. Fait qu'écoute, à la fin de la journée, il faut juste être prêt à mettre cette poque-là dedans quand le rebond va arriver de toi, puis croiser les doigts que justement ce rebond-là va arriver devant toi. Sinon, écoute, tu l'as dit, lui, il a parlé de son expérience, puis mine de rien, il a dit que c'était comme un autre match-set pour lui. Tu sais, c'est vraiment lui, il a dit, c'est comme une autre game-set. Ils l'ont fait contre Shawinigan, ils l'ont fait en finale contre Moncton. Une de gagnée, une de perdue. Maintenant, c'est comme une autre, mais quand même, il faut prendre l'expérience qu'ils ont eue dans ces deux autres matchs-là, puis l'amener là. Puis il a dit aussi, tu sais, souligner le fait qu'il faut être content d'être là. Faut aimer ça, ces moments-là. Faut aimer ça, ces matchs-là. Si t'aimes pas ça, c'est sûr que c'est très mal parti. Puis, tu sais, tu parlais de leur défense. C'est ça. Pour toutes les équipes dans le Power Ranking, on a pris en note, tu sais, c'est quoi les joueurs clés pour eux. Puis, du côté de Rimouski, sur ma liste à moi, c'est toutes des attaquants. Tu sais, tu parles P.O. Roy. Oui, c'est un super bon joueur. Mais il amène quelque chose que Rimouski a déjà dans le sens, tu sais, l'offensive, ils ont Fauchon, ils ont Katafor, ils ont Blais, ils ont Mateyko. Tu sais, ils ont des joueurs qui sont capables de justement la mettre dedans maintenant. C'est ça va être vraiment du côté défensif. Puis, c'est ça, écoute, les joueurs clés, je pense que tu les as pas mal tous soulignés. Alexandre Blais, ce qui est intéressant chez lui, puis pourquoi est-ce que son jeu est autant important, puis pourquoi est-ce que, tu sais, peut-être que s'il était dans Moncton, admettons, ça serait pas dans ma liste de joueurs clés, mais là, il l'est. C'est parce qu'il amène quelque chose que Rimouski, ils n'ont pas ailleurs. Ils ont beaucoup de grands joueurs qui sont capables de se battre, qui sont plus gritty. Puis Alexandre Blais, c'est un des seuls joueurs dans cette équipe-là qui est très vraiment plus sur la finesse. Justement, tu as dit des petites passes, être un peu plus capable de se promener, faire des cycles en zone offensive. Donc, son rôle va être crucial. Puis, tu sais, c'est pour ça que c'est un des joueurs clés. Si lui est là, il va vraiment mettre beaucoup de chance du côté de Rimouski. Puis, écoute, avant de passer à l'autre équipe, je voulais aussi mentionner, pour toutes les équipes, j'ai aussi noté des joueurs à surveiller pour le repêchage. Bon, là, écoute, vous le savez, c'est la Coupe Mémorial. C'est pas les équipes les plus jeunes qui se rendent là, même s'il y en a une, c'est quand même pas pire. Mais tu sais, d'habitude, c'est des équipes plus établies avec peut-être un ou deux joueurs éligibles pour le repêchage. Puis Rimouski, c'est l'équipe avec le moins là-dedans. Mais reste que quand même, sur certaines listes, on a vu Maël Lavigne sortir. C'est un double surage. Ça veut dire que, tu sais, son repêchage n'était pas celui de l'année dernière, c'était l'autre d'avant. Mais reste que c'est un allié de 6 pieds 4 qui a réussi à quand même pas mal mettre des points, plus quand il était capitaine à Victoriaville. Je suis pas trop fan de la façon dont il skate. Je suis pas encore convaincu justement de son jeu physique, mais reste que à la fin de la journée, le projet est intéressant, puis il y a quand même de fortes chances qu'on voit une équipe LNH prendre un risque là-dessus dans les rondes plus basses du repêchage. Fait que si vous êtes fan du repêchage cette année, Maël Lavigne, gardez les yeux dessus. Ça risque d'être un nom que vous pourriez voir sortir en ronde peut-être 5, 6, 7 de la LNH.
Donc, on va enchaîner avec l'autre équipe de la LHMQ présente à ce tournoi. Donc, c'est les Wildcats de Moncton. Personnellement, je pense que la séparation se fait quand il y a quand même une plus grande séparation entre l'équipe 4 et 3 qu'entre le reste des équipes. Je pense que 3-2-1 sont quand même très proches. Wildcats, c'est l'équipe qui s'est fait compter le moins de buts en saison régulière cette année dans la dans tout le Canada junior. C'est une équipe qui... Puis on le voit en les regardant jouer, là, je veux dire, même hier contre Medicine Hat, qui est une équipe très, très fast-paced, très dynamique, très offensive, ils ont été capables de les contenir. Mathis Rousseau est excellent, je veux dire. Il donne confiance à son équipe. Hier, ils se sont fait bombarder 17 tirs en deuxième période, puis ça a vraiment Rousseau les a vraiment gardés dans le match. Le contrôle des rebonds est incroyable. Moncton, on parle du repêchage de cette année. On va quand même parler de Desnoyers, Caleb Desnoyers, un gars qu'on parle depuis quand même longtemps. Si vous nous suivez depuis notre première saison, c'était un gars qu'on avait vu dans le midget. Il y a aussi Julian Sumpf avec lui. Ils ont bon le défenseur Étienne Morin, l'espoir de Calgary. Ils ont Dylan Gill, l'espoir de Tampa Bay, qui a joué au début de la saison avec le Crunch de Syracuse dans la AHL. Donc, Moncton, eux, contrairement à Rimouski, on les a vus deux fois en vrai. Donc, on a vu leurs deux matchs préparatoires jusqu'à maintenant. Et moi je vais te lancer après là-dessus, mais c'est vraiment, moi, je trouve que c'est leur première ligne. Si elle fonctionne, s'ils sont dans le match, s'ils sont confiants, ça paraît. Parce qu'ensuite, je pense que le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de, comment on pourrait appeler ça, de second-hand scoring. Quand on parle qu'une équipe doit, mettons le Canadien, on en parlait souvent du fait que c'était on se basait quasiment juste sur la première ligne, puis le reste, ben, amenait rien. Puis en effet, là, à date, ils ont 3 buts dans le tournoi. Il n'y a aucun des buts qui a été fait par un attaquant. Les points sont pas mal juste dans la première ligne, si je me trompe pas, là. Donc, c'est ça. Ils ont peut-être un petit problème d'avoir une profondeur qui amène quelque chose.
C'est ça, Moncton. Je pense que les clés pour les matchs sont assez claires. C'est l'équipe, justement, que tu avais dit, qui ont limité le plus le nombre de buts dans toute la LCH. Puis là, maintenant, ça fait 2 matchs d'affilée où est-ce qu'ils laissent avoir 40 tirs. Je comprends, c'est 2 super bonnes équipes, mais à la fin de la journée, quand tu es un powerhouse défensif, comme on dit, il faut que tu ailles limiter les tirs. La clé, ça va être, tu sais, Rousseau, tu l'as dit, je pense que c'est potentiellement, on pourrait avoir la discussion de pourquoi c'est le meilleur gardien de but dans ces équipes-là. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est une clé. Puis lui, il est présent. Il donne les chances à Moncton de rester dans le match. Fait que ça va être important de garder ça pour la centre tournoi. Mais là, maintenant, c'est ça. Il faut que les défenseurs l'aident un peu, limitent les tirs de l'autre bord parce que 40 tirs à chaque soir, c'est vraiment super épuisant. Puis je pense que leur joueur, Gabe Smith, nous l'avait dit à la conférence de presse après le premier match qu'on a vu, donc au jour 2, leur match contre London, je pense, il a dit on a montré qu'on pouvait jouer contre n'importe quelle équipe, mais il faut jouer un plein 60, puis je pense que dans les deux matchs, c'est très 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 valide. Hier contre Medicine Hat, écoute, la deuxième période, ils se sont fait complètement dominer. Il y a un des journalistes de l'autre bord qui venait de Cap-Breton, donc c'est pas un journaliste pour une équipe, mais tu sais, qui nous dit, ouf, ça fait de la peine de voir Moncton jouer comme ça. Effectivement, dans la deuxième période, ce n'était pas Moncton. Il y avait comme toute l'identité qui était partie. Ils ont laissé 17 tirs dans une période. Donc, ça veut dire quasiment la moitié des tirs de tout le match viennent dans la même période. Pour Mathis Rousseau, c'est extrêmement difficile. Puis, de la meilleure défense de la Ligue, c'est pas acceptable d'avoir une période comme ça. Puis, s'ils laissent ça arriver, soit que ce soit contre Rimouski demain ou bien en demi-finale, je pense pas qu'ils vont s'en sortir. Donc, il faut vraiment serrer ça, box out. Couper les lignes de passe, couper les lignes de tir, parce qu'on ne peut pas permettre 40 tirs à chaque soir. Sinon, c'est ça aussi ce qui n'a pas marché hier contre Medicine Hat. C'était, tu l'as dit, la première ligne, oui, il faut qu'ils marquent, il faut qu'ils aillent prendre leur chance, mais tu sais, c'est que dans le premier match contre London, ce qui avait vraiment dérangé London, c'est à quel point est-ce que cette ligne-là, Caleb Desnoyers,
Sumpf et Pekarčík.
Pekarčík, c'est ça, j'ai besoin de la prononciation à chaque fois, mais à quel point est-ce qu'eux sont capables de s'installer puis bouger dans la zone, tu sais.
Ben, c'est ça, ils cycle. C'est incroyable. Ça,
faire des cycles, se promener, tout le temps mettre la défense de l'autre équipe en doute. Puis hier, on a vu Desnoyers constamment essayer de faire ça, mais Medicine Hat ont complètement réussi à fermer toutes ces lignes de passe, couper ses options, puis après ça, le coincer jusqu'à temps qu'il puisse se mettre 2 contre lui, puis forcer un revirement rapide. Fait que si il arrive justement en demi-finale encore une fois pour leur prochain match, puis on arrive à box-out Caleb Desnoyers comme ça, à lui couper toutes ses options, puis que les autres joueurs ne sont pas capables de faire le six sans lui, c'est sûr que ça ne se rendra pas là. Puis,
mais hier, tu te rappelles-tu à la fin de la première, on s'est dit, aïe, la première ligne a juste buildé. C'est comme s'ils ont commencé quand même lent, Puis dans la première période, on voyait vraiment une évolution dans leur jeu. On voyait une évolution dans la confiance, dans leur contrôle de rondelle. Puis ça s'est tout écroulé en deuxième.
C'est aussi, reste qu'à la fin de la journée, si on compare les temps de possession de rondelle de ce premier trio-là contre London versus contre Medicine Hat, même dans la première période, quand ça s'améliorait, c'était des possessions de rondelle. Tu sais, Caleb Denoyer puis son trio marquent des buts quand ils ont la POC longtemps dans la zone offensive. Puis ouais. Ils peuvent faire plusieurs passes.
Ils font
on les a vus avoir des bonnes chances. On a vu Pekarčík avoir des très bonnes occasions en première période. Mais reste que c'était beaucoup. Ça finissait beaucoup plus vite que dans l'autre match d'avant. Eux, ils ont besoin de ce temps-là. Puis là, aussi, c'est ça.
Ben, hier, ils ont remplacé Sumpf avec Gabe Smith. Ouais. McDougall, le coach, a remplacé la première ligne quand même assez rapidement. Ouais. Puis Sumpf, c'est comme s'il s'est... je sais pas, on dirait que c'était un différent Sumpf qu'on voyait pas avec la première ligne. Il était vraiment plus fonceur.
Il a pris le lead
de sa ligne. Il fonçait vers le centre de la glace. Il prenait des tirs. Il était en rapidité. Alors que normalement, avec la première ligne, ça va être souvent Desnoyers ou ça va être souvent Pekarčík qui rentre avec la rondelle, Desnoyers qui va la recevoir, puis Desnoyers ensuite qui installe le jeu. Fait que est-ce que Sumpf, c'est un style de jeu qui lui va mieux, dans le sens que moi, Sumpf, c'était pas un joueur cette saison que je vois, qu'on l'entendait parler et tout, mais je voyais peut-être pas le potentiel de plus. Mais là, hier, quand il a été séparé de sa ligne, là, je voyais plus le joueur individuellement. Puis, tu sais, Desnoyers, hier, il a tellement été bien bloqué que moi, je me dis, si je suis Rimouski, Je regarde le match d'hier, je regarde comment Medicine Hat a contrôlé Desnoyers, puis je fais exactement la même chose. On s'entend que ce n'est pas les mêmes effectifs, donc il n'y a peut-être pas la même qualité pour contrer, mais c'est fou à quel point, je veux dire, Desnoyers, il a été capable de s'exprimer dans sa première game contre London, puis hier, c'était vraiment très, très difficile pour lui, puis pas juste parce qu'il se faisait frapper et autres. Ça, c'est une partie du jeu que Desnoyers est capable de vivre avec, puis il est capable de répondre aux hits. C'était vraiment plus... juste, il n'y avait pas d'espace. Les jeux qu'il essayait de faire, c'est comme si Medicine Hat savait c'était quoi sa lecture. Puis, je veux dire, Desnoyers, sa tête, elle est tellement bonne. Je veux dire, sur son trio, il se complète vraiment bien avec Pekarčík. Mais Pekarčík, justement, c'est pas le plus haut IQ, c'est pas la meilleure vision. Pekarčík, ça va être le gars qui va la récupérer dans le fond de la zone, qui va te cycle, qui va remonter vers la ligne bleue, qui va chercher soit à la faire une passe à la pointe ou soit essayer de renvoyer la rondelle au filet. Desnoyers, lui, c'est vraiment le joueur cérébral, le joueur qui a la rondelle sur son half-wall, qui va faire des pivots, puis qui va aller créer des jeux out of nothing. Pekarčík, c'est pas ça, mais les deux se complètent très bien. Fait que...
Ouais, puis écoute, à Moncton aussi, il va falloir, tu l'as dit, c'est une équipe, c'est pas comme London, ils dépendent beaucoup plus de leur première ligne que les autres équipes, mais reste qu'à la fin de la journée, hier, surtout avec Sumpf qui jouait avec les lignes plus basses. On a vu les joueurs de support, les lignes plus basses. Tu sais, je pense à Mercier aussi, Lansbury créer des super bonnes chances. Mais encore une fois, tu peux pas gagner un tournoi sans que tes attaquants marquent des buts. Puis non. Si la première ligne en marque pas, c'est bien que là, les lignes plus basses soient capables de créer des chances. Mais à la fin de la journée, il faut que quelque chose rentre. Fait qu'il va falloir que justement, il y ait plus de scoring. Effectivement, des gros noms, Desnoyers, la première ligne. Mais aussi justement de ces joueurs de soutien-là. Puis écoute, je pense que ça arrive là, contre Rimouski. Ça m'étonnerait vraiment qu'il n'y ait pas d'attaquants qui marquent de but parce qu'on les a vus vraiment être sur le bord. Tu sais, Desnoyers, sure, il se faisait box out, mais on a vu quand même une ligne de Lansbury, Sumpf quand il jouait avec lui, justement, Mercier qui cognait constamment à la porte, qui allait chercher des tirs. Puis à un moment donné, ça va finir par rentrer. Puis là, tu as dit, tu sais, on a parlé de Sumpf pour le repêchage, on a parlé de Desnoyers pour le repêchage. Juste mentionner que Mercier était disponible aussi. Moi, je ne pense pas qu'il va être pris par une équipe, mais reste que c'est un excellent joueur, puis que je pense que l'équipe qui l'invitera à son camp LNH va avoir un excellent, potentiellement, tu sais, peut-être prospect à aller regarder l'année prochaine comme overager, parce qu'on pourrait le voir exploser avec un rôle un petit peu plus gros. Tu sais, c'est un excellent joueur de soutien qui fait tout ce qu'il a besoin de faire sans montrer rien de élite. Fait que ça reste intéressant, mais c'est ça, peut-être plus en termes d'invitation que de choix. Puis
je veux juste dire, Alex Mercier, il y a 3 passes sur 3 buts.
Ben, c'est
que,
ça.
Je veux dire, puis en plus, c'est ça, je me suis trompé, mais en fait, la première ligne n'a rien amené à date. C'est Dylan Gill, 2 buts.
Puis
ouais, vas-y, fini. Mais Moi, je voulais parler de la ligne défensive. Vidicek, Marcus Vidicek, bon. C'est lui qui a la grande charge défensive en désavantage numérique et contre les meilleurs trios adverses. Donc ça, c'est vraiment un atout intéressant. Mais je veux pas trop m'éterniser parce que d'un, on a deux autres équipes avec peut-être plus de joueurs à analyser. Puis c'est peut-être pas des joueurs qui, selon nous, vont se rendre au prochain niveau tant que ça. Là. Donc je voulais juste le mentionner.
Ben écoute, on peut finir sur justement le prospect du repêchage chez Caleb Desnoyers. On a parlé de ces deux matchs, mais finalement, qu'est-ce que ces performances-là montrent? Écoute, les deux, c'était notre joueur numéro un dans le repêchage de la GMQ. Les deux, on a parlé super bien en lui quand on venait de faire la liste de repêchage sur la chaîne de Briser la glace, aller regarder ça. On parlait de est-ce que dans le temps, les Canadiens étaient supposés prendre plus haut, potentiellement dans le top 10, est-ce que ça aurait été un target intéressant pour le Canadien? Puis tout le monde était sur le même côté que c'est un excellent centre, c'est un joueur qui pourrait jouer premier centre. Moi, c'est juste qu'avec des matchs comme hier, puis on l'a vu, c'est arrivé moins souvent à la GMQ, mais tu sais, quand on le voit, ce joueur-là se faire enlever ses options, c'est ça, il montre vraiment que c'est un pourrait être un premier centre, mais c'est pas comme un McKinnon, mettons, où hey, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il va en créer, il va trouver des options. Caleb Desnoyers, ultra intelligent, mais il n'a pas les mains justement pour quand tu lui enlèves ces deux options, aller tout faire tout seul. Fait que, on a vu vraiment la limite de Desnoyers. Mais là, après ça, j'ai vu, ben, t'as ça à chaque fois, tu as des fans qui réagissent beaucoup, beaucoup, surtout ceux de Chicago, parce qu'il y a eu des liens avec Desnoyers et Chicago en troisième choix. Des liens surtout de fans, là, je ne veux pas partir de rumeurs, rien, là, c'est des fans qui en parlent. Mais tu sais, j'ai vu des fans arriver et dire « Ah, alors après un match comme ça, on ne peut pas justifier d'aller prendre Caleb Desnoyers troisième. Il faut se calmer les pompons. C'est sûr que justement, ce n'est pas un McDavid qui va créer toutes les options tout seul. Tu ne peux pas mettre 100% de tes attentes offensives. Ce n'est pas un joueur qui va aller mettre 100 points à LNH. Mais reste que je pense que justement, avec ses qualités défensives, sa qualité de vision, son jeu physique, puis tu sais, sa vitesse, c'est peut-être pas la meilleure, mais reste qu'elle est quand même solide pour sa taille. Ouais. Je pense qu'il montre vraiment qu'il pourrait jouer sur un premier centre dans la LNH, peut-être juste plus un premier centre à la Nick Suzuki qu'à la McDavid, justement. Mais tu sais, des McDavid, t'en as combien dans la LNH?
Non, c'est ça. Non, mais on s'entend que McKenna, c'est comme un générationnel. Moi, Desnoyers, je veux dire, à partir du troisième rang, je pense qu'il est dans la conversation.
Absolument.
On a vu Barry Trotz et JP Glaude à l'écran. On a vu plusieurs autres scouts de la Ligue nationale, mais tu sais, moi, je pense qu'une équipe qui pige 3, 4, 5, là, c'est vraiment très, très réaliste de le voir là. Je veux dire, bon, c'est sûr que là, c'est comme, à quelque part, c'est du temps emprunté, là, dans le sens que c'est comme le gros stage, puis il y a pas mal rien de négatif qui peut venir avec le fait de jouer à la Coupe Memorial. Fait que Desnoyers, c'est juste du plus qu'est-ce qu'il a en ce moment. Mais, tu sais, comme on le dit, la première ligne, c'est vraiment eux qui sont les plus dangereux. Nous, où est-ce qu'on est? La galerie de presse est derrière le but des visitants, du domicile. Donc, on voit attaquer deux fois les visiteurs. Et à date, je pense qu'on a eu trois périodes en tout où est-ce que Moncton était devant nous à attaquer. Puis sincèrement, Desnoyers, c'est juste fantastique.
C'est des détails.
C'est les petits détails. Puis c'est ça que hier, c'était fou contre Medicinage parce que c'est comme si il était rentré un peu dans sa tête. Puis là, Desnoyers, tu le voyais rater des petits, juste une rondelle qui floppe un peu, il la ratait. Il était comme super pressé dans ses mouvements. Mais je verrais pas ça devenir un trend, non. Devenir un pattern. Quand on rentre dans la zone Desnoyers, il est capable de prendre son temps, de trouver l'espace, de prendre la bonne décision. Les jeux ne meurent pas sur sa palette. Il fait pas juste la dumper. Il va toujours faire le jeu intelligent, essayer d'aller chercher le F3 ou trouver une manière de déstabiliser l'autre défensive. Fait que moi, sincèrement, c'est ça. Chicago, je trouverais ça vraiment intéressant parce que surtout avec un Connor Bedard qui est vu comme un generational puis qui est vu avec un potentiel offensif énorme. Desnoyers, je pense que c'est peut-être plus un Suzuki Ishier dans les 80-90 points, mais qui joue sur ton premier piqué, sur ton premier power play.
Ça va dépendre de l'opinion qu'ils ont des gars en dessous. Tu sais, il y a des listes où
Frondel,
où Martin va être 8e, il y a des listes où il va être 3e. Fait que tu sais, si Chicago sont high sur Frondel, Frondel aussi, ça peut être le même cas, mais tu sais, s'ils sont high sur un joueur comme Porter Martin, ça se pourrait qu'on voit Porter Martin sortir numéro 3 s'ils veulent ajouter de la taille. Ça dépend, c'est où leur priorité, c'est quoi leur plan, c'est quoi leur liste.
Il y a peut-être juste, mettons, Utah 4 que je pense que je verrais moins. aller chercher un dénoyé, dans le sens que ils ont un Barrett Ayton qui là est un peu ressorti. Ouais. C'est vraiment pas le même calibre selon moi, mais je pense que Porter Marton, je le verrais vraiment avec les Mammouths. Mais ouais, sinon, tu sais, à Nashville, là, je vois tellement dénoyé dans un chandail de Nashville. Je veux dire, je trouve que ça fit avec sa physicalité. Puis je me rappelle d'avoir pris la note qui prenait pas les mises en jeu en zone offensive contre London. Là, je me rappelle pas contre Medicine Hat, mais il me semble qu'en zone offensive, c'est pas lui qui les prend. Puis même pendant la saison, là, ouais, dans mes notes. Mais tu sais, quand tu vois une équipe comme London, Dale Hunter, un coach d'expérience, vraiment, bon, je sais pas c'est quoi, ça fait 20 ans qu'il est dans le junior, mettre Oliver Bunk et Sam Dickinson et les concentrer sur Desnoyers, ben, tu te dis qu'il y a quelque chose de spécial avec lui.
Ouais, je pense qu'on peut passer à notre prochaine équipe du Power Ranking. Donc, en numéro 2, ça va être Medicine Hat. Écoute, avant de parler sur des noms spécifiques et tout, je vais donner un petit peu le raisonnement de pourquoi est-ce qu'on l'a mis là. Tu sais, un petit peu, c'est quoi les clés justement à toute équipe. On a dit c'est quoi qu'il faut qu'il fasse pour qu'il gagne. Medicine Hat, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, on a vu une défense qui était assez décousue contre Rimouski. Ils ont failli perdre ce premier match-là contre l'équipe qui, tu sais, on l'a vu, son numéro 4 sur notre Power Ranking. Mais la performance, l'amélioration sur les problèmes qu'on a vus en deux jours, tu sais, pour le match après ça qui sont arrivés contre Moncton, on a vu une équipe complètement différente, plus organisée défensivement. Puis eux, tu sais, ce qui est vraiment intéressant, on disait qu'il y avait une équipe qui avait plus de noms qui était là pour le repêchage. Bien, c'est vraiment les Medicine Hat Tigers. Medicine Hat, il y a des très, très jeunes joueurs dedans. Ils ont un mélange super, super intéressant de joueurs d'expérience comme Wes Blatt qui leur a mis 107 points, 106 points cette saison. Des jeunes comme McKenna, Gordon Carroll, qui lui était éligible pour 2027. C'est un joueur de 16 ans qui est dans l'équipe, donc vraiment un mix super intéressant. Mais là, c'est ça va être de continuer justement à s'améliorer tranquillement. Garder une défense organisée comme hier. T'sais, hier, on a vu des petits joueurs comme Wu, que quand on voit leur gabarit, quand on voit un petit peu le style de jeu, tu ne t'attendrais pas à ce qu'il soit autant important, mais pourtant, des gars comme ça, être super disciplinés en défense, pas prendre de risques pour rien, vraiment continuer à mettre de la pression juste quand il faut, prendre les bonnes décisions. On a vu des Molendijk aussi, être capable de faire un petit peu les deux. C'est sûr que Molendijk est pas mal plus offensif que Wu. Mais tu sais, il n'y a aucun de leurs joueurs qui s'est complètement perdu dans leur rôle offensif, qui a commencé à vraiment rentrer dans le momentum puis juste penser à l'offense. Ils sont tous restés ultra disciplinés, beaucoup plus que contre Rimouski, ce qui leur a coûté un petit 4 buts dans la première match. Je pense qu'ils ont vraiment appris de ces erreurs-là. Puis c'est pour ça, moi, que je voulais mettre numéro 2, parce qu'une amélioration comme ça en deux jours, c'est quand même super impressionnant. Puis là, ça veut dire comment est-ce qu'ils vont sortir ce soir. T'sais, si l'amélioration continue, on pourrait avoir un Medicine Hat vraiment à leur meilleur contre London. Fait que ça, c'est encourageant.
Ben regardez, la première ligne de Medicine Hat, McKenna, Wes Blatt, Richie a fait 129, 106 points puis 91 points cette saison, donc pour proche de 300 points à 3. Et là, en ce moment, dans la Memorial Cup, ben, ils sont à 12 points à 3, donc 4 points chaque. 3 buts Ryder, 2 buts McKenna. T'sais, quand on parle de Moncton, qui ont une première ligne qui est pas mal la seule qui peut amener de l'offensive en temps réel, mais après, c'est pas eux qui scorent. Ben là, c'est complètement l'inverse avec Medicine Hat. Medicine Hat, c'est, ils ont deux lignes qui peuvent amener de l'attaque. Tu as parlé de gens avec de l'expérience, Wes Blatt, mais il y a aussi St. Martin, ouais, qui est vraiment un vétéran excellent. Je l'aimais l'année passée quand je regardais Bacha et Lindstrom. Mais c'est ça, c'est du star power dans le top 6.
C'est une équipe qu'il faut qu'ils marquent pour gagner.
Ils doivent marquer. Puis je veux dire, c'est fast-paced. Je veux dire, ils sont rapides, là. Ça doit être vraiment difficile de coacher contre eux parce que les contre-attaques, ça part vite. Tu as parlé de Wu, Molendijk, mobile. Wu, mobile. Pickford, peut-être moins mobile, mais Pickford, two-way, freine les attaques en entrée de zone. Est capable d'avoir un excellent tir. Il y a eu deux buts dans le premier match. Après, t'as Vazainen, le défenseur repêché par Utah, qui est un grand défenseur mobile, droitier. Puis t'as Mionen, qui lui est 6 pieds 5, qui frappe. Donc, c'est vraiment une défensive très difficile à pénétrer. Molendijk, c'est peut-être celui qui a le plus de petits problèmes offensifs. En même temps, il joue contre les meilleurs trios adverses et il joue énormément. Moi, il y a un gars que je veux parler, Puis c'est Bacha. Andrew Bacha, c'est juste. Tantôt, je parlais de Blais, mais Bacha, c'est comme Blais sur les stéroïdes. Je veux dire,
ouais,
la vitesse
aussi, ouais.
qu'il a, un peu plus grand, la vitesse qu'il apporte, l'exécution, la vision. C'est fantastique. Là. C'est, ce gars-là, c'est comme. Tu sais, on parle beaucoup de Mesher comme un joueur de périmètre, mais Bacha, c'est comme le. Qu'est-ce que Mesher a dû amener à son jeu? C'est. Oui, Bacha, il va utiliser beaucoup le côté, puis essayer de couper une fois rendu en zone offensive, puis d'essayer de la passer vers le centre, souvent à Lindstrom, parce qu'ils sont, sont pairés ensemble. Mais je sais pas, l'ingéniosité de Bacha, la vision qu'il a, les passes se rendent. T'sais, fait que souvent, moi, je vais noter quand je regarde un joueur, oh, j'aime l'idée, mais. Quand je dis ça, c'est souvent parce que ça s'est pas rendu. Mais Bacha, c'est pas juste que j'aime l'idée, c'est que ça se rend. Fait que il y a comme ce côté-là de se dire, ben là, je veux dire, même si c'est pas le plus grand, c'est pas le plus fort, il crée les jeux en vitesse, en protection de rondelle, pas nécessairement puis juste en ayant scanné peut-être une seconde ou deux secondes avant. Donc, il a pas besoin de toujours avoir les yeux sur le. Il sait où est-ce que ses joueurs sont, donc ça doit être. Juste fantastique jouer avec lui. Tu sais, Lindstrom, hier, c'est son premier match dans la Memorial Cup. C'est un gars qui n'a pas joué dans le PK. Tu sais, on a vu qu'il y a peut-être, son coach l'a peut-être ménagé certaines tâches. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas vu le full Lindstrom, mais tu sais, c'est vraiment d'aller jouer devant le net puis d'aller attendre l'époque de Bacha un peu dans le sens que lui, il est entouré de deux gars rapides. Martin aussi, c'est ça. St. Martin, c'est juste, il va très rapide. Il a des bonnes mains. Il tient peut-être trop la puck. Moi, je veux parler de Molendijk en dernier, juste parce que c'est un joueur que moi j'aimais énormément en 2023. Je pense qu'il aurait dû être repêché autour de 15 à 20. Il a été repêché 24e, donc c'est un très bon choix pour Nashville, mais juste mobile, des bonnes décisions, des bonnes passes de sortie de zone. Tu sais, il n'hésite pas à être un quatrième attaquant, mais quand il est quatrième attaquant, il ne met pas son équipe dans le trouble. Parce qu'il est tellement rapide qu'il peut revenir rapidement. Il active le jeu. Dès que la mise en jeu se fait et qu'il y a la rondelle, le jeu est parti. Il l'active. Il n'y a pas 0.5 secondes d'immobilité. Là. Donc, l'autre équipe, par la mise en jeu, est direct. La rondelle est en train de soit bouger ou en train de se faire contrôler par Molendijk. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime énormément dans un attaquant, un défenseur offensif.
Oui, ben c'est ça. Il y a comme la petite qualité de d'activation élite offensive que un petit défenseur est obligé d'avoir. T'sais, on parlait de Wu tantôt, on en a parlé justement dans le segment de pourquoi est-ce que c'est important la défensive. Jet Wu, c'est un petit défenseur qui est vraiment capable de super bien compenser pour sa petite taille, mais qui n'a pas cette même capacité-là d'activation élite offensive que Molendijk a, puis qui est crucial. T'sais, 6 pieds, c'est pas petit, mais c'est pas grand. Il y a beaucoup d'équipes dans la LNH que si tu mettais un Molendijk dedans, ça serait le plus petit joueur de la brigade défensive. Fait qu'il faut vraiment qu'il amène quelque chose de spécial, comme Lainotum, qui est pas. Lainotum est pas mal plus petit, mais il faut quand même qu'il y ait un petit quelque chose de spécial pour être petit et rentrer. C'est ça, les deux, pour rentrer dans une brigade offensive LNH. Maintenant, je pense, tu sais, on a pas mal couvert tous les joueurs clés. Bacha, on l'a dit. Bacha, moi, il m'a vraiment fait penser à, tu sais, pour ceux qui ont regardé l'épisode sur le Vermont, à Teddy Stiga. Peut-être un petit peu moins de la qualité que j'avais vantée de Stiga off the puck, là, dans le sens Stiga est vraiment partout. Avec la rondelle, il peut jouer à la Bacha, la promener, faire des passes, trouver des options, faire les entrées de zone, faire les récupérations de rondelles. Et en plus, off the puck, il est super intense. Il allait, tu sais, vraiment mettre de la pression sur les autres, faire des récupérations de rondelles. Bacha peut-être un petit peu moins vu le côté off the puck, mais reste que ces deux joueurs qui m'ont beaucoup fait. Tu sais, ils ont été pris dans les mêmes, à peu près les mêmes rangs au repêchage. Les deux, c'est des excellents joueurs de support. Fait qu'ils m'ont vraiment fait penser l'un à l'autre. Ça m'a donné des gros flashbacks du Vermont, une super belle fin de semaine. Et puis, tu sais, celui que je pense qu'on a nommé, mais qu'on n'a pas vu son plein potentiel hier, c'était vraiment Caden Lindstrom, justement, qui joue avec Bacha. Si Caden Lindstrom est capable de justement prendre son jeu un petit peu plus haut, si on voit vraiment le Caden Lindstrom qui avait travaillé son tir, avait rendu un petit peu plus précis sans que ce soit le meilleur, qui était capable de s'activer plus rapidement, qui faisait plus que juste aller devant le filet. Là, oui, c'est important de devant le filet, mais tu ne peux pas prendre quatrième overall au repêchage de LNH juste parce que tu es devant le filet. Puis hier, on l'a vu avoir des flashs, des beaux playmaking, des tirs rapides, des belles entrée de zone, du beau jeu de support, c'est bien se placer, se trouver ouvert pour avoir une bonne ligne de tir, mais souvent, il ratait ses tirs. Puis, il se repliait souvent sur justement son jeu devant le filet. Son jeu devant le filet qui est correct, mais il faut qu'on voit plus que ça. Puis, je pense que si justement cette deuxième ligne-là s'active avec Aiden Lindstrom, tu l'as dit, ça doit être difficile de faire un retour en plein Coupe Memorial. Son premier match, après en avoir raté quelques-uns, c'est dans un match intense comme ça, contre une des meilleures défenses de la LCH. Ça doit être assez difficile. Fait que peut-être que ça explique justement son retour un tout petit peu plus lent. Mais s'il peut exploser ce soir, en fait, contre London, on pourrait vraiment voir deux lignes qui seraient, tu sais, top, qui pourraient être premières. Sinon, là, écoute, on a des noms à maudit pour cette partie-là, mais tu sais, encore une fois, à surveiller pour le repêchage. Puis là, celui-là, c'est drôle parce que tu en as à surveiller pour le repêchage cette année. Un à surveiller, deux à surveiller pour le repêchage l'année prochaine. Un à surveiller pour le repêchage de l'autre année d'après. Fait que tu sais, quand je disais que c'était un mix de jeunes et de vétérans, cette équipe-là, c'est vraiment fou. On a Pickford, tu l'as dit. C'est un défenseur vraiment two-way. On a vu quelques erreurs défensives, mais pour la part offensive qui amène, tu sais, ça se compense. J'ai hâte de voir les équipes LNH vont prendre un risque sur lui ou s'il va être repêché, lui, c'est 100% sûr. Donc lui, ça va être pour cette année. C'est déjà un surâge, donc il y a un an de plus. Mais l'année dernière, il y avait eu un temps de jeu extrêmement limité. Cette année, il a vraiment explosé en WHL et
en série.
C'est ça, en série et à la Coupe Mémorial. Il y a eu un énorme match contre Rimouski hier. C'était un petit peu plus tranquille, mais on l'a vu avoir des flashs offensifs. T'as Wu encore un peu à la Mercier juste avant. Est-ce qu'il va être repêché? Je ne penserais pas, mais reste que le patin est bon. Il est capable de tirer. Il y a pour un gars de 5 pieds 9, là, son jeu physique est excellent. Tu sais, j'ai vu dans Head Prospect, il avait fait justement des LM30 pour 30% off. Il avait fait justement des scouting notes dessus. Puis le dernier match que Mitch Brown avait regardé de Jonas Wu, il a dit que ça a été le meilleur défenseur de Medicine Hat. Puis je pense qu'hier, on aurait pu avoir la même discussion pour dire que ça a été le défenseur le plus efficace de Medicine Hat. À 5 pieds 9, c'est extrêmement impressionnant. Donc, tu sais, peut-être que...
Puis il y a un reverse hit sur Gabe Smith. Smith de Moncton, c'est un gros gaillard, là, très massif.
Ouais.
Et il est arrivé pour frapper Wu, puis Wu s'est retourné, puis il l'a frappé, puis Wu, il est 160 livres.
On a vu ça arriver une couple de fois. Ouais. Des gros plaquages sur des joueurs qui font 4-5 pieds de plus que lui, c'est fou. Mais c'est ça, reste qu'il est 5 pieds 9, puis il n'y a pas cette qualité élite offensive. Fait que tu sais, lui, s'il sort, ça serait vraiment 6-7e ronde. Un beau projet peut-être pour une équipe LNH qui n'a pas de petits défenseurs comme ça. L'année prochaine... Gavin McKenna, peut-être à surveiller à une invitation au camp. Là, McKenna, je ne pense pas qu'il va être repêché très haut.
Peut-être 7e round, c'est un bon bet.
Son cousin était bien meilleur. Mais non, mais Gavin McKenna, écoute, Gavin McKenna, c'est Gavin McKenna. Allez regarder la highlight, c'est ça. Création d'espace, des passes qui sortent de n'importe où. Ça va être le choix numéro un.
Faire quelque chose hors de rien, en fait. Oh, ouais. Là, c'était peut-être pas son meilleur match.
Mais reste que
c'est ça, il finit avec une passe.
C'est pas un bon match. Moi, je le veux, tu sais.
Ouais. Puis, tout le monde le veut. Mais le prochain que tu veux parler, c'est de l'IM Rock.
Ouais.
Un des jumeaux. Puis Rock, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il joue sur le premier power play.
Ouais, c'est sûr.
Il est devant le filet. 41 points en 61 matchs cette année, repêché juste l'année prochaine. Et c'est peut-être un nom qui va... tu sais, on parle souvent de joueurs comme, mettons, Sam O'Reilly et d'autres joueurs de même qu'on va venir, mais qui jouent dans leur année de draft et autres dans des trios inférieurs et qui ensuite montent. Là, je ne sais pas à quel point Rock va être capable de monter avec la profondeur que cette équipe-là a et le fait qu'il y ait déjà un rôle sur le power play. Mais son coach hier, il disait que justement, il voit vraiment bien la glace, qu'il est bon pour aller récupérer des rondelles en fond de territoire, puis que c'est très difficile pour un gars de 16 ans, ou en tout cas un gars qui joue sa saison de 16 ans, de jouer dans la Memorial Cup, parce que normalement, ben, c'est un tournoi qui est plus âgé, comme on a pu voir avec Rimouski. Donc, vraiment intéressant, ça, ce Liam Rock-là. On ne l'a pas vu beaucoup, là, parce que justement...
Non, ça va être à regarder l'année prochaine.
À Memorial Cup, là, sincèrement, les quatrièmes trios, on les voit peut-être un shift.
Mais j'ai mis, si vous irez voir sur le TikTok de Sur la bande, il y a un clip de 30 secondes, je pense, d'un des shifts du power play de Medicine Hat, puis c'est un des shifts où, justement, Liam Rock est devant le filet. Fait qu'écoute, je ne peux pas en dire trop sur son style de jeu parce qu'on ne l'a pas vu à 5 contre 5. Ça va vraiment être la saison prochaine à regarder ça. Mais gardez l'œil ouvert. Puis si vous voulez voir son style de jeu sur le power play, c'est à quel point il est agressif devant le filet, cherche les options de rebound, les options de tir facile. C'est tout le temps le bâton vraiment serré, prêt à décocher ou prendre un retour. Allez regarder. Il est quand même impressionnant à voir, tu sais, puis comment il se fait pas pousser. J'ai aimé ça, mais ça, tu sais, je pense qu'on l'a vu deux shifts. Un autre qu'on a vu vraiment pas beaucoup, mais lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est éligible. Lui, il a 16 ans. En ce moment, là, il est éligible en 2027. C'était Gordon Carroll.
Ouais.
Écoute, on, ça n'a rien d'analyser 15 minutes. Un gars qu'il n'a même pas joué 15 minutes hier. Lui, je pense qu'il doit avoir joué 4-5 minutes. Là. On l'a vu vraiment deux mises au jeu et tout. Il avait quand même l'air d'avoir une très bonne vision de jeu. C'est juste travailler l'exécution. Mais tu sais, 16 ans à la Coupe Mémorial, moi, je pense que c'est vraiment un gars qu'il va falloir vraiment garder à l'œil pour le repêchage 2027, parce qu'il y en a combien de joueurs qui, tu sais, dans ce repêchage-là, qui vont actuellement avoir joué dans, tu sais, que ce soit Coupe Mémorial ou bien des séries importantes de leur ligue, tu sais, le top niveau où est-ce qu'il peut être à cet âge-là, c'est assez impressionnant. Puis, les petits moments qui étaient là sur la glace, il ne s'est pas fait intimider, il n'avait pas l'air hors de position, c'est ça que j'ai dit, c'est juste des petites erreurs de tu sais, exécution. L'idée, elle est bonne, l'exécution, il n'y a pas assez le temps pour le faire. Mais ça, à 16 ans, ça va s'améliorer, c'est sûr. Puis je suis juste content que justement, on l'ait vu avoir un tout petit peu de temps de glace. Là. Fait que Gordon Carroll a gardé en tête pour le repêchage 2027.
Passons maintenant à la dernière équipe. Donc, en fait, je veux juste dire, Medicenat, là, avec justement les joueurs qu'on vient de vous parler, m'étonnerait vraiment pas qu'on les revoie dans la Memorial Cup l'année prochaine. En plus du fait que la Memorial Cup est dans WHL, donc Medicenat n'aurait même pas à gagner le championnat. Il y aurait juste à se rendre en finale contre Kelowna et il pourrait participer à la Memorial Cup. Donc, ça donne la plupart du temps un peu plus de chance à une équipe de la faire. Et donc, pour finir, l'équipe qu'on n'a pas parlé encore, les Knights de London.
Ouais.
Ça, c'est l'équipe qu'on va voir le plus pendant notre séjour. Donc, on va les voir trois fois. On aura vu leurs trois matchs préparatoires. Mais à date, juste avec les deux matchs qu'on a vus, on a un très bon visuel, très bonne idée de c'est qui. Là.
C'est l'équipe la plus complète du tournoi, c'est 100% sûr, la plus organisée. Ça part, tu sais, il n'y a comme pas de gros défauts dans l'équipe. Dans le sens, l'entraîneur a de l'expérience, ils ont une équipe profonde, ils ont une équipe qui joue à organiser. Leur défense, elle est un petit peu plus axée sur l'offense, mais quand même, tu sais, même leurs défenseurs offensifs sont pas petits, fait qu'ils peuvent jouer les deux côtés. Alors là, tu sais, ça va vraiment être utiliser leur expérience de l'année dernière. C'est une équipe que l'année dernière s'était rendue en finale de la Coupe Mémorial, avait perdu. C'est un peu ça aussi que leur entraîneur nous a dit. T'sais, il a dit, parce que c'est un des entraîneurs qui a coaché le... C'est l'entraîneur qui a le plus de victoires à la Coupe Mémorial, puis un des entraîneurs qui a coaché le plus de matchs à la Coupe Mémorial. Et puis, quand je lui ai posé une question, justement, à la conférence de presse après un match, c'est ça qu'il nous a dit. « Plus je fais de tournois, plus je sais comment préparer mes joueurs à jouer contre l'élite de la LCH. » Puis là, ça va vraiment être question de, il a déjà coaché d'autres finales, il a déjà gagné des finales, il a déjà perdu des finales, ça va être vraiment de la préparation que ces gars-là vont avoir, l'organisation. Maintenant, tu sais, quand on parle vraiment du jeu sur la glace, ça va vraiment être de sortir puis d'avoir du jeu défensif comme on a vu dans leur deuxième match. Tu sais, Sam Dickinson, le premier match, quand on les a vus contre Moncton, c'était un petit peu plus difficile, on le voyait prendre un petit peu plus de risques des fois où il fallait pas, il y avait de la misère, il prenait le temps à sortir la rondelle de sa zone, c'était vraiment pas lui. Puis le lendemain, on l'a vu vraiment à être stable, à être le côté défensif ultra fiable sans enlever son attaque, tu sais, dans le sens quand son équipe commençait à perdre de un but, on l'a vu prendre ses risques, aller jouer plus haut, ce qui a même mené à un des buts de son équipe. Donc, on a vu vraiment le jeu complet de Sam Dickinson. Puis là, c'est ça qu'il va falloir que la défense de London aille. Ce côté vraiment shutdown-là, qui fait mal, qui plaque quand le match est serré ou bien quand il mène. Et puis, sans perdre le côté justement du support offensif où les défenseurs peuvent amener la rondelle de leur zone jusque dans l'autre zone, créer les chances quand l'équipe justement traîne de 1-2 buts. T'sais, quand l'équipe a vraiment besoin de ces gros moments-là, la défense, il faut qu'ils viennent leur donner en restant fiable défensivement.
C'est juste une équipe. Bon, on pourrait... T'sais, surtout les fans de la OHL pourraient dire que London, c'est un peu comme un cheat code dans le sens que, si vous ne le savez pas, justement, Dale Hunter, Mark Hunter, ces deux frères qui sont là depuis 2004-2005, si je crois bien, là, ou oui. 2002, c'est 2004-2005 leur première année.
Ou bien 2003-2004, c'est la première Coupe Mémorial avec Corey Perry dans l'équipe.
C'est une équipe qui a beaucoup de chance dans le sens que les joueurs veulent aller jouer à London, donc beaucoup de joueurs vont faire hey, « non, moi je veux pas jouer avec votre équipe, je vais aller aux États-Unis à moins que vous m'échangiez à London ». Donc, bon, c'est pour ça que London, ils ont des bons joueurs maintenant, des bons joueurs pour l'année prochaine, des bons joueurs pendant 2 ans. Tu sais, comme, bon, pendant 2 ans, je ne sais pas, là, mais ils ont ils ont du star power des repêchages passés, puis ils ont du star power de repêchage cette année, puis de repêchage, ben pas cette année, mais de tu sais. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire?
Quand il y a des stars qui sortent, il y en a qui rentrent.
Il y en a qui rentrent, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de problème là, mais c'est ça, la défensive, je veux dire, Dickinson, Bruce Erwich, Woolley, puis Bunk, même je pourrais dire Cam Allen, qui moi, selon moi, joue un tournoi et vraiment qui m'étonne à date parce que c'était un joueur qui était vu peut-être même top 15 en 2023. Et qui avait complètement, ou 2024, là, je veux ouais, pas 2024, me tromper, puis qui vraiment était tombé quatrième ou cinquième ronde, et là, ouais. Ben, on voit vraiment un différent Cam Allen. Pour cette année, t'as Henry Brustewicz, le frère de Hunter Brustewicz, l'espoir de Vancouver. Ben, en fait, non, maintenant, il est rendu à Calgary. Mais
c'est dans la même région,
c'est pas grave. C'est la même région, ouais. Toi, t'as parlé de Dickinson. Brustewicz, c'est peut-être moins élite, ouais. Mais très bon tir. On le voit prendre beaucoup de tirs. Il a marqué un but. Il trouve les trous. Il est capable de faire des bons jeux de sortie de zone. Il a une bonne mobilité. C'est peut-être pas le gars le plus mobile dans tous les sens.
C'est ça la différence avec mais, Dickinson.
C'est oui, ça. C'est ça. Mais il est quand même très... il est peut-être plus sud-nord-sud, mais je vois pas comme de problème avec son patin. C'est un joueur que all around j'aime bien. On peut voir Martin Lapointe et Vincent Riendeau. Donc, Martin Lapointe, c'est le directeur du recrutement du Canadien et Vincent Riendeau, c'est le recruteur des gardiens de but. Ils sont à la Memorial Cup, ils sont là à chaque match. Et avec le 41e choix au total, un défenseur 6 pieds 1 pour Brustewicz. De droitier avec ce style-là, c'est peut-être un joueur plus safe qu'un Mailloux, c'est peut-être un joueur qui a plus d'opportunités, je pense, pour se ramasser dans la Ligue nationale. Il est plus two-way. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'avec le choix de Pittsburgh, ça soit une des raisons pourquoi Martin Lapointe est là au match de London. On a parlé de O'Reilly de tantôt un peu, mais c'est moi, je veux parler de Cowan. C'est vraiment... Moi, je pense que je l'aime plus que toi. Cowan, c'est juste... Offensivement, c'est un dynamo. Je veux dire, les mains, il crée des jeux. Il est dangereux. Il tire rapidement. Il se protège bien. Le jeu physique, ça le fait pas peur. Lui aussi, ça connecte comme Bacha. C'est comme si tout connecte. Tout se ramasse. Paraître une chance dangereuse quand il y a la rondelle. Vous pouvez le voir dans le but gagnant contre Moncton. Si je ne me trompe pas, le premier match qu'on a vu, c'est il fait un spinorama, un genre de spinorama dans la zone offensive. Il revient sur le half-wall, puis il l'envoie vers le net, puis ça rentre en déviation. Mais c'est comme des fois, si c'est trop facile, il lit tellement bien le bâton des défenseurs.
Ouais. Dans le jeu junior, Easton Cowan,
c'est vraiment pas mal. C'est un top 6.
Tu dis que tu l'aimes plus. Moi, j'ai rien à dire sur son jeu junior. En ce moment, il joue vraiment comme il sait que ça va marcher. Il est capable de tenir la rondelle longtemps. C'est juste, justement, c'est ces tendances-là à garder cette rondelle-là. Quand tu montes d'un niveau, ça va moins marcher. C'est pour ça, tu sais, il y en a qui diraient justement top 6. Moi, j'aurais plus tendance à dire middle 6. Mais tu sais, à la fin de la journée, la ligne entre un centre de troisième trio et de deuxième trio. Il y en a une, mais elle n'est pas énorme. Là, sur une équipe qui va aller profond, comme Toronto, là, où est-ce qu'il va se mettre? La différence entre le John Tavares qui va juste sur le deuxième, puis admettons, tu mettrais Easton Cowan sur la 3, surtout à la première saison, c'est sûr qu'il va en avoir une grosse, mais c'est quand même un niveau similaire. C'est juste que moi, j'aurais plus tendance justement à aller le mettre sur la 3 que la 2, mais là, c'est rendu tellement minutieux là, comme prédiction. Mais quand tu dis que le moins, c'est plus ce petit détail-là, dans le sens qu'il y a certains de ces jeux en junior que je pense pas qu'ils vont se transmettre dans la LNH. Fait que, la production de tout le monde, quand il monte à un niveau plus haut, elle descend. Mais lui, je pense qu'elle va descendre peut-être un petit peu plus que certaines personnes s'attendent. Ouais. Mais sans enlever le fait que c'est un excellent prospect, puis c'est un prospect de rêve pour un choix de fin de première ronde. Là, c'est du scouting vraiment fait de superbe façon de Toronto. Puis dans la situation à laquelle Toronto est, surtout s'ils sont sur le bord de perdre John Tavares, là, on verra. Mais c'est exactement le genre de prospect qui ont besoin et qui vont être super contents d'avoir. Puis on comparait souvent, ou bien, je ne sais pas si on comparait, mais on avait souvent Minton et Cowan dans la même discussion. Puis là, tu sais, Toronto a échangé Minton. Tu sais, juste dire, c'est pas le même genre de joueur. Minton, c'est vraiment le joueur de joueur qu'on voyait vraiment sur une quatrième ligne. Troisième ligne, déjà, pour lui, ça serait overachieve. Là, tu sais, ouais, mieux que ce qu'on pensait. Easton Cowan, c'est comme une coche de plus. Tu sais, c'est ça qui me fait vraiment dire deuxième ou troisième ligne, là, tu sais, middle six.
Moi, je pense qu'il ne touche pas aux Marlies. Je pense que l'année prochaine, en plus, avec les départs que Toronto vont vivre, parce qu'ils ne pourront pas garder Nice, Tavares et Marner, je vois Cowan arriver direct sur le top 6. Je ne pense pas que c'est Nick Robertson. Je pense que, justement, il y a le petit côté hargneux. Puis c'est drôle parce que au dernier match contre Rimouski, il se ramasse à la fin du match. C'est sûr qu'il gagne. C'est à l'autre bout de la glace. Donc, c'est sûr que c'est ça. Il y a un avantage où est-ce que quand c'est dans notre zone, on voit très bien, mais quand c'est à l'autre bout de la glace, on voit peut-être moins bien. Et je vois juste Cowan, après la mise en jeu, comme être à genoux par terre puis vraiment avoir mal à un pied. Donc, dans la conférence de presse, j'y demande, tu sais, parce que je voyais tout le long du match qu'il était vraiment en dessous de la peau. Des joueurs de Rimouski avaient vraiment l'air d'avoir comme irrité ces joueurs-là. J'y demande un peu, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves gratifiant de sentir que tu es en dessous de la peau de l'autre équipe? Puis, tu sais, je parle justement de l'événement à la fin du match. Puis il me dit, en fait, c'est juste que j'ai bloqué un tir. Mais oui, c'est quelque chose que j'aime de sentir que je suis dans la tête de l'autre équipe. Donc, pour Toronto, je pense que ça va être vraiment intéressant parce qu'avec un Nice, mettons, qui est un joueur
chiant aussi.
Qui est chiant aussi, qui justement est baveux, avoir ce Cowan-là qui est comme un plus petit format puis qui peut te faire mal offensivement, je trouve ça vraiment intéressant. Là, ça, en tout cas, c'est un petit parallèle que je voulais faire parce que moi, c'est quelque chose que j'aime. Là, je veux dire, mon joueur préféré de London, c'est Denver Barkley, pas parce que je le vois nécessairement avoir une longue carrière dans la Ligue nationale, même si je pense qu'il pourrait en avoir une quand même. C'est juste parce que Barkley, c'est un joueur d'énergie. Il n'a pas les capacités offensives les plus élevées. Il n'a pas le patin le plus rapide, mais c'est un il est capable d'avoir une vitesse de pointe, il travaille, il est gossant, il est toujours en train de jaser avec l'adversaire. Puis ça, c'est vraiment le genre de joueur que j'aime. Fait que Cowan, c'est un petit aspect que j'aime, le côté physique qu'il est capable d'amener. Puis je l'avais vu au début de la saison, au match des recrues entre les Canadiens puis Toronto. Puis Cowan, c'est ça, il était vraiment visé physiquement, là, puis il a toujours été capable de répondre, d'éviter les contacts. Et même pendant la saison en OHL, il était vraiment visé parce que justement, c'est une des étoiles de l'équipe. Mais c'est ça, il répond, il est capable de frapper pour de vrai. Comment il décoche des tirs hors équilibre sur son mauvais pied. C'est vraiment difficile. Là, aller sur une glace et essayer de tirer d'une bonne manière avec votre mauvais pied, votre en débalancement, en sortant d'un pivot. C'est vraiment quelque chose que je trouve qui se transpose très bien à la Ligue nationale parce que dans la Ligue nationale, si tu dois tirer avec le setting parfait, ben tu ne vas jamais tirer.
Ah ouais, puis écoute, c'est ça, c'est tous des joueurs qui amènent tellement offensivement à London puis qui vont. Il faut que ça reste comme ça pour le restant du tournoi. Denver Barkley, que tu as mentionné, moi, ce qui m'a vraiment le plus impressionné c'est dans ces matchs, c'est oui, il y a cette intensité-là qu'on savait qu'il était là, mais c'est aussi à quel point est-ce qu'il s'adapte bien à la pression, sa vitesse de réaction, la vitesse de prise de décision, à quel point est-ce qu'il fait bouger la rondelle, surtout quand il est sur le power play, là, qui est ultra important pour London. On essaiera d'en filmer un petit coup ce soir. Ouais. Vous regarderez sur le TikTok, on va essayer de vous mettre ça. Mais c'est vraiment ça qui m'a impressionné. Puis, London, ils ont énormément de joueurs dynamiques comme ça. Un autre joueur clé que, tu sais, on a mentionné brièvement, mais qu'on n'a pas focus dessus, tu sais, c'est aussi Oliver Bunk, un prospect de la même équipe, justement, que Denver Barkley. Encore une fois, c'est dynamique, c'est la mobilité, sans perdre, justement, d'efficacité défensive. Fait que c'est vraiment ça, un peu le nom de l'heure, là, chez London. Rapidité, cohésion, puis justement, c'est ces petits jeux créatifs qui sortent de nulle part. Puis là, tu sais, eux aussi, ce que le coach de Moncton nous avait dit, c'est à quel point tu peux pas de préparer à jouer contre London parce qu'ils ont comme trois premières lignes.
Ouais.
Puis, tu sais, je voulais aussi juste vraiment souligner l'importance justement de ces lignes de soutien parce que sur ces lignes de soutien-là, tu as des joueurs que s'ils étaient dans d'autres équipes, ils seraient sur la première ligne ou la deuxième ligne. Tu sais, je pense ici à Nurmi qu'on n'a pas vu, tu sais, se démarquer tant que ça offensivement, mais qui est très, très dans les détails. Moi, je le comparais beaucoup à Michak, tu sais, un joueur que justement, quand il est arrivé en AHL, la production n'a pas été là, mais reste qu'il jouait quand même sur le penalty kill de Laval. Tu sais, restait efficace en récupération de rondelles. Nurmi, c'est ça que je vois en ce moment. Tu sais, il est capable d'amener la rondelle au filet, mais c'est plus justement dans la récupération, garder la rondelle dans la zone offensive. Mais ça, pour une équipe comme London, c'est vraiment, vraiment crucial, même si ça fait douter du potentiel offensif de Nurmi en tant que joueur individuel. Ça reste super utile à l'équipe. Puis un autre joueur qui, dans London, il bouge beaucoup les lignes. Fait qu'il y a des périodes où il y a un rôle qui est vraiment de soutien, puis il y a des rôles où bien il y a des périodes où bien il joue avec la première ligne. Mais moi, je pense le joueur que, si on veut le qualifier de soutien, qui m'a le plus impressionné du tournoi, c'était Blake Montgomery, qui avait commencé sa saison à 20, c'était sa saison où il finit à 20 ans. Il a commencé en USHL. Moi, c'est vraiment pas, USHL, je regarde, on n'a pas vraiment accès à ça. Fait que je regarde très, 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 très rarement. Souvent, c'est plus des clips. Fait que, Blake Montgomery, j'avais connaissance du nom, j'avais vu quelques clips. Il avait brisé la glace, justement, qui avait mis beaucoup, beaucoup de clips, qui était quand même fan de sa grande taille, qui en avait parlé à son aide repêchage. Fait que je savais un petit peu quel type de joueur c'était, mais il m'a vraiment, vraiment impressionné à la Coupe Memorial. Il a eu, il était au-dessus de points par match pendant la saison régulière. En série, ça a continué. Puis là, à la Coupe Memorial, il décoche ses tirs ultra rapidement. Il a des mains, sans que ses mains ce soient les meilleures, pour un gars de 6 pieds 4, explose bien, bonne vitesse. Des mains, on l'a vu des fois faire des entrées de zone coupées au milieu, puis prendre un tir rapidement quand il y avait deux défenseurs devant lui. Pour un gars de 6 pieds 4, c'est extrêmement impressionnant. Puis je pense pas qu'on a vu d'autres gars avec ce même genre de projection dans ce tournoi-là faire ce même type de jeu. T'sais. Fait que c'est pour ça aussi que lui, on avait vu, je pense, le premier match, des gens qui parlaient de potentiellement un bon gars de middle six. Peut-être que justement, on le voyait plus sur un troisième, un peu pour les mêmes points que je disais avec Easton Cowan. Mais reste qu'il m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Je m'attendais à avoir un joueur plus grinder, plus physique de quatrième trio. Mais lui, il a des petites habilités qui, justement, je ne serais pas gêné de dire que, potentiellement, sur un troisième trio, ça pourrait être un power forward. Des fois, les power forwards, c'est comme un peu des trous noirs offensifs, là. Ils amènent beaucoup. Ils sont capables de récupérer la rondelle derrière le filet, mais après ça, il ne se passe rien. Blake Montgomery, j'ai beaucoup aimé ses habiletés, justement, à amener la rondelle, créer des chances, ou bien quand il n'y a pas de chance, décocher le tir rapidement lui-même, être celui qui est à la réception de cette chance-là à la place de celui qui fait juste récupérer la rondelle puis la renvoyer devant le filet.
Ouais, j'ai pas grand chose à rajouter. Tu sais, Altunen aussi, c'est un joueur intéressant qui joue plus troisième trio, qui lui, c'est peut-être plus de comment je le vois, c'est peut-être plus un one trick pony là. Tu sais, il y a Ryder Ritchie aussi de Medicine Hat qu'on n'a pas parlé, qui sont deux plus justement doués vers les buts. Je pense que Ryder Ritchie, je le préfère un peu parce que je le trouve plus utile au match en général, mais Altunen, regarde, je veux dire, c'est quoi? C'est 50 buts cette saison.
Ben c'est du bon positionnement. C'est deux gars qui vont trouver
power
le trou.
Play, tir.
Ryder Ritchie va être plus un peu plus petit, fait que plus mobile, plus intense pendant la game, sans être justement le plus efficace dans sa propre zone. Il y a des trous dans son jeu, mais il essaye, il se promène. Alors que Altunen, justement, un peu plus grand. Fait qu'il va être moins mobile, mais ça va être un petit peu plus difficile de lui enlever la rondelle. Puis le one-timer de Altunen, je pense que c'est le meilleur de le tournoi. Ryder Ritchie a un excellent tir du poignet. Il est capable de décocher rapidement, puis même le one-timer, il est correct. Là. Mais Altunen, c'est un one-timer précis et ultra, ultra lourd. Fait que tu marques pas 50 buts avec un petit tir pas très fort. Là. Altunen, wow.
Puis Altunen, c'est vraiment le genre de joueur, on s'en était parlé, mais c'est comme, tu le vois pas de la game, puis il ressort avec deux buts. Fait que, tu sais... C'est ça. Il y a des joueurs de même, puis après, c'est l'interprétation de chacun, c'est subjectif de se dire est-ce que c'est un joueur de ce type-là, mais qui va être capable de se rendre dans la ligne nationale, ou est-ce que c'est un joueur de ce type-là qui ne va pas l'être. Altunen, il y a le gabarit pour être capable d'amener quelque chose d'autre, donc je pense qu'avec le coaching, ça pourrait se rendre. Puis de toute façon, il est à San Jose. Est-ce que c'est un des joueurs qui va peut-être se ramasser coincé à un moment donné parce qu'il y aura justement plus de place sur un top 6 parce que je vois pas nécessairement où est-ce qu'il peut être si c'est pas sur un top 6, là.
Ben, à moins que tu le mettes sur une troisième ligne, mais ouais, sur le premier power play. C'est juste, faut qu'il soit en position de marquer des buts. Ouais. Si tu as un Altunen dans ton équipe
qui marque pas de but,
qui est pas sur le power play, ben, pas qu'il va te servir à rien, mais ça va être loin du joueur le plus utile dans ton équipe.
Ben, mettons, en ce moment, c'est Cam Lund qui était sur la deuxième ligne à la fin de la saison, si je me trompe pas. Cam Lund, c'est peut-être plus un joueur de bottom 6, donc c'est peut-être là qu'Altunen pourrait rentrer. Altunen, il lui reste encore une année junior, si je ne me trompe pas. Mais en même temps, Altunen n'a pas été repêché dans la OHL, donc il pourrait jouer.
Ils l'ont fait jouer
au début de la saison à HL. Puis, donc il devrait jouer à HL.
Puis c'est ça, HL, quand ils l'ont fait commencer, il a quand même réussi à marquer des buts, puis il a été efficace offensivement. Fait que, j'ai pas de trouble à penser que justement ce gars-là va être capable de trouver le fond du filet. Puis des fois, c'est juste que un peu à la Laine à Montréal, tu peux pas avoir quatre gars qui font ça. Tu peux en avoir un qui tu fais jouer sur tes lignes plus basses puis qui est sur ton premier power play, qui cherche le one-timer, qui va te marquer des gros buts. C'est cool, mais tu peux pas en avoir trop. Tu peux pas avoir une ligne complète de Altunen qui sont pas les plus mobiles, pas les plus efficaces, qui récupèrent pas la rondelle. Un, c'est assez. Il faut que tu sois le meilleur si c'est dans une équipe.
C'est ça. Fait que regardez, on a un match très important qui joue en ce moment pour ceux qui écoutent le podcast en live. Sinon, juste des en tout cas, c'était d'autres choses à dire de la Coupe Memorial, mais sinon, c'était vraiment, vraiment le fun comme expérience. Il y a plusieurs autres choses qui se passent. Laval qui sera en finale de conférence, c'est super intéressant. La PWHL, c'est terminé. Thomas Tatar, c'est fini en NHL. Donc, en tout cas, il y a plusieurs choses qui se passent dans le monde du hockey.
Nous, on se retrouve aussi, je ne sais plus c'est quoi la date exacte du repêchage à LNH, mais au repêchage à LNH, moi et Jules, on est en direct pour commenter les choix du Canadien et de toutes les équipes, un peu discuter avec vous. C'est que si vous n'avez rien de prévu ou bien vous vouliez juste regarder le repêchage tout seul, mettez le stream avec nous, on va être là pour regarder ça avec vous, faire des petites analyses de joueurs, surtout sur LHGMQ.
Ben, c'est ça, si vous avez manqué notre épisode du top 10, on a un épisode de presque 2 heures, de justement nos top 10 des joueurs de la LHGMQ. Donc, c'est ça, on est au draft, on va sûrement avoir des épisodes par-ci, par-là, jusqu'au draft. Donc, c'est ça, merci beaucoup d'avoir écouté et on se revoit dans un moment indéterminé, mais bientôt.
Ouais, appréciez la vue, les derniers moments. J'espère que vous avez aimé l'intro spéciale. C'est pour aider à faire dodo. Bonne soirée.